Femme novatrice.
Femme novatrice.
Femme novatrice avec Sophie Nanin.
Bonjour et bienvenue à Femme novatrice pour écouter et partager avec nous les échos de leur challenge. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Caroline Bréjac, auteure de L'envie de vivre, ma force sans limite. Bonjour Caroline.
Bonjour Sophie.
Ça y est, cette grand jour, elle est là. Oui. Alors, par rapport à votre parcours, c'est quand même exceptionnel. C'est pour ça, bien évidemment, que vous êtes ici. J'aime beaucoup la phrase, je n'ai pas le choix de ce qui m'est arrivé, mais j'ai choisi ce que j'en ferai.
Ouais.
J'ai écrit cette phrase un jour sur un coin de carnet. Alors ça, j'adore. Parce que, et en maintenant, vous faites, vous rédigez un superbe livre. Alors, d'où vous partez et comment vous êtes arrivée à tout cela? Parce que c'est quand même un parcours, vous allez voir, chers auditeurs, qui est quand même pertinent.
Tout à fait. Donc, je suis partie d'où? Donc, je pars de aujourd'hui où, voilà, je suis Caroline, j'ai 40 ans, maman de deux garçons. Et je suis aujourd'hui, donc, on peut le dire, consultante en santé, mais ça n'a pas toujours été comme ça. J'ai un parcours où j'ai travaillé auparavant dans le milieu bancaire pendant 15 ans. Et une épreuve médicale m'a stoppée net, on va dire, et a transformé ma vie et a révélé chez moi une vocation, je pense, qui était un peu sous-jacente. Et donc, voilà, c'est comme ça que je suis arrivée là. Et aujourd'hui, donc, j'ai écrit ce livre qui retrace justement ce parcours et ce pourquoi aujourd'hui je suis autant engagée et, dans le système de santé et auprès des professionnels de santé.
Alors, de toute façon, comme les auditeurs, ils iront acheter votre livre, donc ça, c'est bon. Mais est-ce que vous pouvez expliquer, justement, 15 ans dans le monde bancaire, c'est quoi, ce, justement, qui vous a amené à être vers la résilience, à rebondir, à passer les épreuves? Est-ce que vous pouvez quand même détailler, nous raconter cette histoire en quelques mots quand même,
oui,
ou un peu plus de mots d'ailleurs?
Oui, oui, bien sûr. En fait, effectivement, hein, ce n'est pas une décision que j'ai choisie au départ. Hein, c'est mon corps qui a stoppé net en 2011, après mon premier accouchement, où j'ai fait une virulente septicémie, un choc septique très violent, avec de lourdes complications derrière. J'ai fait ce qu'on appelle une CIVD, on ne va pas rentrer dans le jargon médical, mais qui m'a stoppée net, puisque mes organes se sont arrêtés les uns après les autres. Hein. J'ai eu mon pronostic vital engagé pendant 3 jours. J'ai été plongée dans un coma artificiel. Et au réveil, on a constaté les dégâts, si je puis dire, les séquelles, plus ou moins irréversibles, puisque j'ai nécrosé de toutes les extrémités. Donc évidemment, à la suite de ça, s'en est suivi de longs mois d'hospitalisation et de lourds traitements jusqu'à arriver aux actes chirurgicaux, puisqu'il y en a eu une trentaine en tout, hein, d'amputations au niveau des pieds, au niveau des doigts, des greffes de peau, de la rééducation. Enfin, tout ce cheminement obligatoire, j'ai envie de dire, hein, puisque j'étais alitée et hospitalisée, pardon, a commencé un petit peu à... à venir me chercher sur une réflexion que j'avais, une analyse, alors que j'avais déjà faite auparavant, puisque j'ai eu aussi un papa gravement malade. Donc c'est vrai que je baigne depuis toute petite dans le milieu de la santé, au départ comme aidante, et puis finalement cette épreuve médicale est venue confirmer une compréhension fine, j'ai envie de dire, de voir un petit peu ce qui se passait pour ces professionnels de santé qui sont confrontés, on a beau dire ce qu'on veut, mais à des émotions quand même très négatives dans leur quotidien, hein, qui sont la tristesse, la souffrance, la peur, la colère. Et finalement, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils en font de tout ça quand ils rentrent chez eux le soir? Qu'est-ce qui se passe? Et comment, avec tout ça, ils arrivent à maintenir leur métier, à entrer en relation avec leurs patients? Et j'ai moi-même, vu des choses et compris des choses.
Ah non, mais ça va être une très belle émission. Alors, bien évidemment, chers auditeurs, vous vous dites, là, à Cahors, à Tarbes, aussi bien dans tout le Gers, c'est que, oh là là, mais c'est d'une grande tristesse. Non, c'est effectivement, je pense, la vraie vie. Et vous devez, en plus, au travers de cela, vous retrouver, peut-être en tant que grands-parents, d'ailleurs, ou dans vos amis, vos familles et autres, d'avoir ce genre de discours. Parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, mais je pense que vous avez remarqué, chers auditeurs, l'enthousiasme que Caroline Aubréjac a quand même après en présentation. Alors, c'est vrai que sur le côté soignant, ça, c'est vrai que ça va être un sujet fort aujourd'hui sur cet aspect santé. Alors, vous, quand même, il y a eu, il faut quand même le reconnaître, une détermination, motivation, une force. Je ne sais pas d'où vous avez été la puiser, d'ailleurs, parce que c'est complètement délirant. Donc, il y a cette partie-là et, effectivement, la partie santé. Mais sur cette force, quand même, en premier, parce que j'aime bien la philosophie du verre à moitié plein, c'est comment vous avez réussi à rebondir. Comment vous avez opéré là, où est-ce, comment vous avez trouvé cette force pour aller plus loin?
Comment j'ai trouvé cette force? Alors bon, déjà, il faut savoir que j'avais un bébé à la maison qui m'attendait. Donc ça, je pense que c'est une force incroyable hein, d'avoir... et je pense que c'est un état d'esprit que j'ai toujours... qu'on m'a toujours... Et je pense ça aussi par la maladie de mon papa, que voilà, que j'ai en fait cet état d'esprit depuis toute petite. J'ai entendu, il faut aller de l'avant, on y va, la vie continue. Et je me rappelle d'une phrase, notamment de mon père, qui m'a marquée, c'est « La vie, elle est devant toi, et tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie ». Et effectivement, c'est ce que je me suis dit. Oui, ma vie, elle est quand même sacrément modifiée. Elle va être sacrément modifiée, en tout cas. Il va se passer des choses. Je ne savais pas trop encore quoi, mais il va se passer des choses. Et en fait, on va se relever. On va en faire quelque chose de ça. On va se relever, on va avancer. J'aime beaucoup une citation que j'ai prise d'une amie qui est la philosophie des 4 P, les plus petits pas possibles. Et on va y aller vraiment de petits pas en petits pas et on va se relever et on va en faire des choses. Et c'est de là que j'ai commencé à développer cette force-là, alors que j'avais en moi, je pense, mais elle s'est révélée vraiment à ce moment-là.
Et alors, par rapport au monde soignant, parce que quelque part, je trouve qu'il y a une similitude. Vous, c'était d'aller petit pas par petit pas, mais j'ai l'impression que le monde des soignants, c'est aussi un peu cela. Alors, je ne veux pas faire une émission de polémique, vous savez très bien que je ne suis pas sur cet aspect-là, mais quand même, vous êtes passionné par la vie, et les soignants sont quand même passionnés par la vie. Comment vous voyez les choses sur ces années-là passées et maintenant, actuellement, ils ont vécu toute cette période, parce que les dernières années n'avaient pas été géniales quand même pour eux, mais de métier de soignant, comment ils arrivent à trouver, pareil, la force. Mais vous disiez tout à l'heure, comment ils font après pour rentrer chez eux et à prendre le recul, enfin, comment la vie d'un soignant, comment ils arrivent à le gérer véritablement?
Ben ça, justement, je pense que c'est compliqué pour eux. C'est des choses qu'on ne leur apprend pas forcément, ce genre de choses-là. Et du coup, c'est là où moi, j'ai eu et j'ai à cœur d'intervenir à ce moment-là parce que... Ben, j'ai l'impression, alors après, attention, c'est une impression que j'ai, hein, mais que c'est un petit peu à la débrouille, j'ai envie de dire. Et en fonction aussi de chacun et des ressentis de chacun, mais c'est vrai que ce que je dis souvent hein, dans mes interventions, les soignants, alors oui, ce sont des soignants, des excellents techniciens avec des compétences scientifiques, techniques extraordinaires, mais c'est avant tout des humains. Qui ont des ressentis, qui ont des émotions, qui ont des journées difficiles, qui ont aussi avec leurs patients des effets miroirs. Et tout ça, qu'est-ce qu'on en fait et comment on gère?
On est bien d'accord, pour qu'on comprenne bien tous, c'est vous accompagner les soignants. Parce que souvent, c'est quand même le patient qu'on accompagne, tandis que vous, c'est au contraire d'être un peu la femme de l'ombre pour justement tenir le rythme. Eux, de leur côté.
C'est exactement ce que j'en ai fait aujourd'hui et c'est ce que je mets derrière ce mot de consultante en santé puisque j'interviens à différents niveaux du système de santé, aussi bien sur de la formation que sur différents accompagnements ou conférences ou choses comme ça. Et c'est vraiment... Alors, soit comme une forme, il y en a qui le prennent pour une forme de reconnaissance ou de gratitude, mais ils m'ont aidé à un moment donné dans un parcours de vie. Et moi, aujourd'hui, c'est ça que je veux faire aussi, c'est les aider aussi à aller vers autre chose. Derrière un soin, derrière un parcours de soins, il y a un humain. Et il y a une relation d'humain à humain. Il y a une relation de soignant-soigné. Et c'est, voilà, moi, c'est dans ces moments-là que j'interviens, dans cette relation de soignant-soigné.
Mais alors, soignant Alors, dans quelle partie? Parce qu'il y a la réanimation, il y a la... Je ne sais pas, ça peut être la chirurgie, ça peut être le monde du cancer, vous savez, c'est très large. Quel soignant? Est-ce que c'est aux urgences, par exemple? Vous voyez, c'est lequel principalement que vous accompagnez?
Alors, il n'y a pas de spécificité particulière, hein, c'est tout professionnel de santé confondu. Mais effectivement, alors, sur les services des urgences, alors j'aimerais un jour intervenir sur le service des urgences, mais comme son nom l'indique, le service des urgences sont des moments d'urgence, où là, c'est de l'urgence souvent vitale, technique, où il faut vraiment amener des compétences scientifiques, techniques, etc. Donc, moi, je vais être plus sur des services, alors auprès des infirmières, beaucoup, mais aussi auprès des médecins, auprès de, voilà, tout professionnel de santé confondu, et professionnel de santé hospitalier et aussi médico-social.
D'accord. Leur écoute? C'est eux qui viennent vers vous, c'est vous qui vous en rapprochez? Comment ça se passe? Où il y a une alerte, justement, et de dire « Attendez, j'ai besoin de vous, Caroline Obrejac. » Bon, où il y a une humilité. Comment ça se passe?
Alors, c'est pas encore... et ça, c'est ce que j'essaye de développer, mais c'est là où ben, moi aussi, je casse un peu les codes, hein, parce que j'ai pas la blouse blanche. Donc, c'est vrai que... c'est des barrières, mais que j'entends et que je comprends aussi ces barrières qu'il peut y avoir comme étant un patient. Mais attendez, un patient qui vient me former, qui vient m'accompagner, est-ce qu'il ne vient pas me juger, est-ce qu'il ne vient pas me blâmer, etc. Alors que bon, ce n'est pas du tout cette posture-là. Mais non, pour l'instant, j'interviens beaucoup, beaucoup au niveau de la formation, notamment. Initiale, mais aussi la formation continue. Et on fait appel à moi, puisque dans ma reconversion professionnelle après la banque, donc j'ai suivi différentes formations. Et aujourd'hui, je suis immatriculée comme étant formatrice indépendante. Et j'ai justement cette double casquette-là de formatrice, avec mes outils, ma posture d'accompagnante et mon vécu de patient et cette compréhension fine de ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, c'est vraiment ces deux axes, cette double grille de lecture que je leur apporte finalement. Et je leur parle justement de cette formation spiralaire que j'amène, où je viens croiser les regards de soignants et professionnels de santé.
Et ça se déroule au sein des hôpitaux, au sein des cliniques ou d'associations qui sont liées à la santé? Comment ça se déroule?
Alors, c'est essentiellement au niveau des CH, des centres hospitaliers, au niveau aussi des centres médico-sociaux, où j'interviens beaucoup. Et après, je suis intervenue, j'ai été présidente d'une association de santé pendant un an sur l'hôpital de Purpan, donc aussi auprès d'associations.
D'accord. Et maintenant, par rapport à la santé, qui est quand même une récurrence. Hein. Alors, il y a le côté les produits naturels, il y a le côté accompagnement. Après, on parle de l'industrie pharmaceutique. Enfin, il y a 36 000 schémas. Comment vous voyez là, le côté santé aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une véritable progression? Et même, est-ce que, on dit souvent que la nouvelle génération ne va pas trop vers le monde de la santé. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a encore quand même, parce que c'est un métier difficile, et on voit, alors ça va paraître bizarre, mais l'artisanat, vous voyez, on l'entend souvent, on va sur des métiers plus faciles. Bon, très bien, mais c'est quand même un métier qui est vital. Est-ce qu'il y a une évolution? Il y a vraiment un changement de parcours?
Oui, moi je vois en tout cas, encore une fois, ça m'appartient, mais moi ça fait 14 ans que je suis en parcours de soins, hein, puisque voilà, ça m'est arrivé en 2011, je suis toujours patiente, je suis toujours suivie, et moi je vois bien que le système de santé, il évolue. Alors ça évolue doucement, hein. J'étais sur un colloque international il y a 2 ans de ça, et il parlait de changement de paradigme.
Et c'était quel colloque?
C'était le colloque de Marseille sur l'expérience patient, en fait.
D'accord.
L'expérience patient comme levier d'amélioration de la qualité des soins. Et il parlait vraiment, et c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre. Enfin, en tout cas, moi, c'est la sensation que j'ai de ce changement de paradigme. Et un changement de système, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, c'est évident. Il y a énormément de choses. Il y a effectivement la posture du professionnel de santé et ce qu'il en découle. Mais il y a aussi la posture du patient, hein, qui a sa posture lorsqu'il rentre dans un hôpital, qu'il est en soins, etc. Et en fait, c'est tous ces acteurs, finalement, qui sont en train d'être amenés à une transformation. Et ça change, et ça évolue. Et moi, j'interviens depuis 3 ans maintenant sur la formation initiale à la fac de médecine à Toulouse, où j'interviens avec des deuxièmes années jusqu'aux cinquièmes années. Et je vois bien que les deuxièmes années, même là, en 3 ans, ça a évolué. Leur discours n'est plus le même, l'approche n'est plus la même. Ils ont une sensibilité différente. Donc, moi, je crois beaucoup que le système de santé est en train d'évoluer.
Mais par rapport au manque de personnel, il y a, pour moi, un soignant, c'est énormément d'échanges. Vous avez dit le côté technique et le côté humain. Mais ce temps, il leur manque, puisqu'il y a le manque de personnel. Comment ils arrivent aujourd'hui à avoir suffisamment cette écoute, ces échanges? Moi, de ce que j'entends, de ce que je lis, après, vous allez me dire ce qu'il en est, mais en termes de patients, ils en ont un nombre multiplié par rapport à eux, leur nombre de soignants. Comment ça, ils gèrent ce temps-là et, vous voyez ?
Compliqué. Non, c'est vrai que c'est compliqué. Et la réalité, c'est ce que vous dites. Hein. C'est ça, c'est ce manque d'effectifs, c'est ce manque de temps, c'est toujours plus de patients, c'est beaucoup d'administratifs. Je crois qu'on leur demande aussi beaucoup, beaucoup et de plus en plus d'administratifs. Et ça, malheureusement, là, on touche à des problématiques politiques, j'ai envie de dire. Donc, c'est encore différent. Mais c'est vrai que moi, dans mes formations ou quoi, j'ai à cœur, en tout cas, de leur offrir ce temps comme une pause, en fait, où ils vont avoir ce moment où ils vont pouvoir se reconnecter, en tout cas, ou prendre le temps pour se connecter à nouveau sur ce pourquoi ils faisaient ce métier au départ, en fait. Hein, se prendre soin, ce fameux care qu'on apprend dès le départ. Mais après, oui, ces problématiques d'effectifs, ces problématiques de moyens, elles sont bien réelles.
Et quand vous dites là sur les formations, les contenus qui pour eux sont les plus importants, ce sont lesquels ? Parce que je pense que ce n'est pas le côté forcément médical, ça va être plus mental, j'imagine. Sur quoi vous allez véritablement ? Vous sentez qu'il y a des axes de progrès qui leur sont nécessaire,
vas-y. Moi, sur les différentes formations sur lesquelles j'interviens, c'est vrai que toute la partie communication, c'est un gros sujet, la communication émotionnelle notamment. Alors moi, c'est un peu mon dada. C'est vrai que je les embête pas mal avec ça. Mais pour moi, c'est primordial parce que dans le système de santé, si on n'identifie pas et si on ne voit pas les émotions, c'est très compliqué. Et que ce soit aussi bien les émotions du patient que les émotions du soignant. J'essaye de remettre un petit peu, de rééquilibrer tout ça et de leur dire qu'ils ont le droit aussi d'avoir des émotions, de leur apprendre aussi à verbaliser des émotions quand ils les perçoivent chez leurs patients ou même chez eux. Qu'est-ce qui se passe ? C'est des petites choses qu'on n'a pas forcément toujours appris ou qu'on ne maîtrise pas toujours. Hein. La communication émotionnelle, c'est pas aisé pour tout le monde. Et c'est vraiment là-dessus que je vais axer. Cette communication, cette écoute et cette posture et moi j'interviens sur une des thématiques de formation, c'est l'éducation thérapeutique du patient, où c'est vraiment comment on rend le patient acteur de sa prise en charge. Et c'est ce côté un petit peu, et c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, de cette double posture aussi bien du soignant mais que du patient. Voilà, que le patient, il redevienne un petit peu acteur de son parcours de soins aussi. Et comment on l'aide, comment en tant que soignant, on l'accompagne pour être acteur de sa prise en charge.
Et alors, quand vous dites le soignant, donc c'est pas forcément infirmière ou autre. Le médecin, bien évidemment, est à l'écoute. Ils le sont plus ou pas ? Parce que côté infirmière, qui vont être très opérationnels, je dis pas que les médecins le sont pas, mais sur, on va dire, le suivi, c'est plus l'infirmière, à partir du moment où la personne est dans le CHU, va être là en récurrence et de façon régulière. Mais les besoins ne vont pas être les mêmes. Donc, c'est plus quand même les médecins qui sont... mais les médecins sont quand même encore présents et demandeurs. Et de la même chose ?
Oui.
Les mêmes choses ?
Alors,
les
mêmes choses, non. Les besoins sont différents. Et voilà, après, on s'adapte aussi. Hein,
et eux vont être plus sur quoi ? le médecin, justement, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure?
Les médecins, ils sont quand même dans la communication. Hein. Alors, pour certains, et ce n'est pas une généralité, hein, moi, vraiment, je n'en fais pas une généralité, mais c'est vrai que pour certains, de les amener sur la communication émotionnelle va être un petit peu plus difficile que peut-être des professions comme les infirmiers, les aides-soignants. Mais j'ai quand même... Enfin, il y a quand même dans les groupes, sur les sessions qu'on fait, on a, et je trouve qu'il y a de plus en plus, notamment de médecins, des médecins demandeurs, et qui viennent aussi chercher des outils, des réponses sur... il n'y a pas longtemps, j'intervenais sur une session, et j'ai un médecin qui m'a dit, le questionnement, apprendre à questionner son patient, c'est des outils. Cette formation-là lui a appris ces outils-là. Donc, ils sont quand même demandeurs. Après, les besoins sont différents, mais parce que les métiers sont différents et c'est OK.
Mais ça veut dire que là, au niveau des questions et autres, c'est-à-dire ce relationnel avec le patient a été mis un peu de côté. C'était le soin avant tout, et qu'aujourd'hui, c'est de relancer l'écoute. Il n'y en avait pas tant que ça. Vous voulez dire avant ?
Alors, ce n'est pas qu'il n'y avait pas tant d'écoute. C'est que vraiment, on était dans une posture très différente. Et ça fait très longtemps, on était un peu dans cette posture de paternaliste, j'ai envie de dire, où il y a le sachant en haut et le patient en bas. Et le sachant donne des informations au patient et le patient fait ce qu'on lui demande. Et aujourd'hui, c'est en train un petit peu de s'inverser. On est en train d'horizontaliser un petit peu tout ça. On était plus sur une relation verticale descendante. Et là, on est sur une relation horizontale, où le patient, et au-delà du patient, les aidants, l'entourage, les usagers ont de plus en plus de droits, sont plus écoutés, ont de plus en plus de connaissances, de compétences. On parle beaucoup, moi j'interviens donc sur le partenariat en santé de manière générale, hein, dans mes interventions en consultante, et on parle on parle de plus en plus de patients partenaires, de cet équilibre en fait qui est en train de se faire, de cette écoute et d'être sur un même pied d'égalité. Et le soignant, le professionnel de santé va apporter toutes ses compétences techniques, ses connaissances scientifiques qu'il a, et le patient, lui, va apporter ses savoirs expérientiels, du vivre avec la maladie, ce que ça provoque au quotidien, etc. Et c'est cette mutualisation de compétences, finalement, qui va faire que ce système de santé va évoluer aussi, et évolue déjà depuis longtemps.
Et au niveau du patient, vous avez vu une évolution? Parce que ce métier, bon, vous le faites quand même depuis un certain nombre d'années. Vous avez vu une évolution? Parce que bon, il y a eu notre charmant Covid qui a été en place, d'autres, on va dire, maladies en parallèle, hein, bien évidemment. Mais vous avez vu une évolution au niveau du patient de ce que vous avez apporté? Est-ce que vous avez un lien direct avec lui pour voir un peu comment ça évolue, comment, vous voyez, comme il y a ces formations et ces accompagnements, un peu comme un diagnostic, de voir un peu l'évolution?
Alors, moi, directement, pas vraiment. Je ne suis pas en contact avec les patients directement. Moi, je suis plus en contact avec les professionnels de santé.
Et ce retour, vous ne l'avez pas pour voir, justement?
J'ai le retour, mais des professionnels de santé. Okay. Vulgairement entre guillemets, qu'un son de cloche, j'ai pas l'autre, mais voilà, moi j'ai une vision assez idéaliste, alors c'est, encore une fois, c'est la mienne, mais j'ai une vision assez idéaliste du milieu de la santé, et on parle beaucoup de l'amélioration de la qualité des soins, et c'est une certitude, et je pense qu'il faut aller vers là, et c'est un petit peu la direction qu'on est en train de prendre, mais moi je reste persuadée que l'amélioration de la qualité des soins, elle passera avant tout par l'amélioration de la qualité de vie des professionnels de santé, et qui va permettre de remettre au centre cet humain, au centre de cette relation soignant-soigné.
Et donc, sur votre livre, ou dans votre livre, de ce que vous avez raconté, donc ça c'est votre parcours à vous, est-ce que ces sujets là qu'on évoque sont aussi dedans, ou vous en parlez pour ce relationnel? Mais dans le livre, là, vous évoquez donc tout votre parcours, là, ce que vous disiez en quelques mots, enfin plus que quelques mots, mais vous avez donc toute cette présentation dans votre livre, et qu'elle écoute, pareil, quand les gens le lisent, se retrouvent dans l'histoire, ou je sais pas, ou découvre, ou il y en a, c'est par mais je savais pas qu'on pouvait avoir une telle vie, et hop, rebondir, je sais pas comment ça réagit.
Oui, c'est un petit peu les retours que j'ai, évidemment, hein. J'ai pour l'instant, ça peut arriver, hein, mais je n'ai pas encore eu de critiques ou choses comme ça, ou d'avis négatifs. J'ai de retours positifs superbes. Donc après, oui, effectivement, dans ce livre, je retrace un petit peu mon parcours de vie. Mais finalement, c'est dans ce livre, j'explique de façon un petit peu détaillée comment d'une expérience personnel, j'en ai fait une posture professionnelle finalement. Donc il y a ce fil conducteur, ce fil rouge, j'ai envie de dire, où je mets en miroir, où je mets en résonance finalement mon expérience personnelle, mon vécu, et c'est vraiment ce savoir expérientiel, ce que j'en fais et comment aujourd'hui je le transmets de manière professionnelle et comment je m'en sers pour accompagner et pour aller vers autre chose.
Ça, c'est sûr que c'est ça qui m'a bien plu, parce que c'est vrai que bon, on peut s'improviser dans un métier, tandis que là, vous l'avez vécu, donc vous êtes encore plus, une légitimité pour écouter, comprendre et savoir comment agir. Et vous avez rencontré, à partir du moment où vous êtes livré, parce que ce n'est pas simple de le faire, ça a ouvert des portes, justement, émotionnelles, de personnes, mais attendez, moi aussi. Enfin, vous voyez, bah, parfois, si vous lâchez vous des mots, est-ce que des personnes se sont donc confiées? Et malheureusement, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce genre de situation où humainement, bah, y a toujours cette philosophie du verre à moitié plein qui est toujours présente, alors que là, c'est quand même un courage, persévérance qu'il ne faut pas lâcher, et vous l'avez plus que tout le monde, quoi.
Bah, oui, alors ça a ouvert beaucoup de... Ça a ouvert des portes, ça a autorisé, on va dire, des personnes à se livrer, à se confier et à oser parler de choses, de vécu, etc. Après, oui, effectivement, c'est un exercice qui est difficile. Je l'ai fait, je ne sais pas si je le referai, mais c'est un superbe exercice de pouvoir déposer des mots, de pouvoir déposer un vécu. C'est top. Après, j'ai commencé à l'écrire moi-même. Je me suis assez rapidement fait accompagner, parce que c'est un métier quand même, d'écrire un livre. Et surtout, ce que je voulais aussi, c'est que ben, justement, des personnes pouvaient s'identifier. Donc, bon, mon histoire, elle est quand même assez... Elle peut être assez violente, assez... Et je voulais pas...
Oui, c'est la vraie vie. Au moins, il n'y avait pas, de... y a pas voilà. d'artifice.
Il n'y a pas d'artifice, ça, c'est sûr. Mais je voulais pas non plus en faire un livre drama. C'était pas le but. Je voulais vraiment qu'il y ait cette... et comme vous le dites, ce verre à moitié plein, cet élan d'optimisme tout au long du livre, sans pour autant masquer ce qui s'est passé et masquer les émotions, mais vraiment d'axer sur le fait qu'on pouvait en faire quelque chose. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on subisse, quoi qu'on rencontre, on peut en faire quelque chose. Et ça, c'était vraiment important et ça a été le fil conducteur. Et je pense que c'est ça aussi qui a permis à des personnes à s'autoriser à se livrer, parce qu'elles ont pu s'identifier aussi en disant « moi aussi, j'ai vécu des choses et moi aussi, j'ai le droit d'en parler et moi aussi, j'ai le droit d'en faire quelque chose ».
Ah ben là, c'est parfait. Moi, je cherchais ma phrase de fin après un tel parcours. Donc, chers auditeurs, malheureusement, on m'est obligé de saluer Caroline Aubréjac. Mais en tout cas, bravo pour votre livre. En tout cas, je rappelle, c'est auteur de L'envie de vivre, ma force sans limite. Instagram, que vous connaissez tous, vous pouvez aller voir. Vous retrouverez son livre. Mais en tout cas, merci infiniment. Audace, persévérance, joie de vivre et oser. Ça vous va comme
oui. Oui. Résilience. J'aime bien celui-là.
J'ai oublié. Chers auditeurs, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.